Tous les matins débute avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Descendre dans la rue plutôt que de participer au grand débat national lancé par Emmanuel Macron. La CGT appelle à faire grève aujourd'hui, un mouvement auquel s'est associé d'autres organisations syndicales comme Solidaire, avec le soutien de la gauche radicale, mais aussi des Gilets jaunes, vous l'entendrez.
Quel but recherchaient les procureurs et policiers venus perquisitionner les locaux de Mediapart hier matin? Les journalistes ont refusé cette perquisition, fustigeant une atteinte à la liberté de la presse.
Et cette visite surprise dans les locaux du site d'information se déroulait dans le cadre d'une enquête préliminaire pour atteinte à l'intimité de la vie privée et pour un enregistrement illicite dans l'affaire Benalla. À la une encore, l'incendie cette nuit d'un immeuble d'habitation du 16e arrondissement de Paris qui a fait 7 morts et une trentaine de blessés. Et puis au Venezuela, l'opposant Juan Guaido a été reconnu hier comme président par intérim par 19 pays de l'Union européenne. Il cherche à acheminer maintenant une aide humanitaire vers son pays qui manque cruellement de nourriture et de médicaments. Reste à savoir comment l'armée va se comporter face à cet acheminement. Reportage à suivre dans ce journal.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, peut-on tout demander au référendum? On posera la question à Arnaud Le Pilouer, il est professeur de droit public à l'université de Paris-Nanterre.
Ils étaient déjà 200 à 300 à bloquer cette nuit l'une des entrées du marché international de Rungis en région parisienne. Des gilets jaunes aux côtés de manifestants munis de drapeaux de la CGT. Le syndicat organise aujourd'hui une grève nationale de 24 heures et appelle à descendre dans la rue pour réclamer une hausse des salaires et davantage de justice fiscale. La CGT est rejointe par Solidaire, Force Ouvrière, mais aussi par le Parti Communiste, la France Insoumise, le NPA et par des gilets jaunes. Il est logique de faire converger les luttes partout en France, estime Christian, gilet jaune à Vesoul, et Nicolas, infirmier à Mont-de-Marsan, syndiqué lui à la CGT.
Au départ, on ne voulait pas, parce que voilà, pas être pris, pas être. Mais maintenant, ouais, on est avec eux. De toute façon, on estime qu'il faut se regrouper. Hein. On y va en tant que gilet jaune les rejoindre. De toute façon, c'est le même combat. Hein. Il y a le pouvoir d'achat, augmentation des bas salaires, augmentation des basses retraites. Voilà, l'énorme poids commun, c'est ça en fait.
Si on veut une avancée, quelle que soit la revendication, il faut que les gens se mobilisent. Il y a copié des bisounours où pour gagner quelque chose, il suffit juste de fermer les yeux, d'y penser très fort et ça arrive. Non, non, tout le monde a conscience de l'écart qu'il peut y avoir dans la façon de vivre et de penser de nos hommes politiques et on va dire de la classe moyenne, dont nous sommes une majorité à faire partie. Voilà, donc faut arrêter d'être utopiste à un moment donné. Si on veut des résultats, il faut bien qu'on bouge ensemble.
Des propos recueillis par nos collègues de France Bleu Besançon et France Bleu Gascogne. Il y aura une trentaine de départements avec des défilés jaunes et rouges. C'est ce qu'assure Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT pour aujourd'hui. Des enseignants également dans les manifestations. Pas d'appel national à la grève, mais des incitations parfois locales. Une bataille dans un conflit social de plus longue haleine à Kim Kasmi.
Si les syndicats d'enseignants n'appellent pas formellement à la grève, c'est pour mieux se préparer aux futurs combats, comme la réforme de la fonction publique qui arrive en mars. Une réforme placée sous le signe de l'austérité. Plus de 2000 suppressions de postes sont déjà prévues à la rentrée dans l'enseignement. Mais ce que craint Frédéric Rollet, la secrétaire générale du SNES, c'est aussi la précarisation de la profession.
Le gouvernement souhaite remplacer de plus en plus de personnel titulaire dans la fonction publique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les personnels sous statut, par des personnels contractuels qui peuvent être beaucoup plus facilement soumis aux pressions de leur employeur parce que ils en sont très dépendants pour leur emploi. On veut fermer aussi des services dans certains secteurs et dans l'éducation nationale, de toute façon, poursuivre ce qui s'est fait en matière de suppression d'emplois. On sait qu'on a 2450 suppressions d'emplois dans le second degré pour la rentrée 2019. Le gouvernement entend continuer pour les rentrées suivantes 2020 et 2021.
Aujourd'hui, les professeurs contractuels représentent 15% des effectifs, un chiffre qui est encore plus important dans l'académie de Créteil, où les besoins sont récurrents, notamment pour remplacer les professeurs malades, et ce, malgré la création de postes ces dernières années.
La précarisation de l'enseignement, mais aussi les fermetures de classes dans les banlieues populaires, ce sont quelques-uns des thèmes qui ont été abordés hier à Évry-Courcouronne dans l'Essonne lors d'un nouveau marathon de questions-réponses entre Emmanuel Macron et 300 maires, responsables associatifs et citoyens. Plusieurs dizaines d'intervenants se sont succédés pendant 6 heures pour protester contre la suppression des contrats aidés, les fusions forcées de communes, les ghettos urbains ou encore le manque persistant de logements et de médecins. 6 heures donc de discussions et de doléances au terme desquelles Emmanuel Macron a annoncé un grand plan pour aider les petites associations de banlieue. Reportage à suivre dans le journal, de 7h30. Des interdictions individuelles de manifester sur décision du préfet, un délit de dissimulation du visage. L'Assemblée nationale doit adopter aujourd'hui la proposition de loi dite anti-casseurs, texte contesté que la majorité présidentielle a largement remanié depuis quelques jours d'ailleurs, sans convaincre tous les marcheurs, dont certains devraient s'abstenir de voter aujourd'hui.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu dans les matins. 7 personnes ont péri cette nuit dans l'incendie d'un immeuble à Paris.
Un feu à l'origine encore inconnu, il a été maîtrisé peu avant 6h ce matin, après avoir ravagé donc un immeuble d'habitation de 8 étages dans le 16e arrondissement de la capitale. 7 morts, 31 blessés, dont une personne considérée comme en urgence absolue. Une cinquantaine d'habitants ont pu être sauvés par les secours qui ont décrit une scène d'une incroyable violence. Évacuation compliquée via des échelles extérieures. 6 pompiers figurent parmi les blessés. Après le décès d'une femme dans l'affaire du Lévothyrox, l'enquête a été élargie à homicide involontaire par le parquet de Marseille. Une information judiciaire avait été ouverte auparavant pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui dans le volet pénal de cette affaire, donc sur le Lévothyrox, médicament dont des milliers de malades de la thyroïde avaient dénoncé des effets secondaires avec la nouvelle formule du médicament. Cet élargissement de l'enquête pour homicide involontaire sonne comme une petite victoire pour les victimes et leurs familles. Déjà tentaculaire, l'affaire Benalla connaît un nouveau front. Le parquet de Paris a tenté de perquisitionner Mediapart hier après la diffusion la semaine dernière par le site d'information d'une conversation entre l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron et Vincent Crase, l'ancien gendarme accusé d'avoir frappé lui aussi des manifestants le 1er mai. Conversation quelques jours après leur mise en examen en juillet dernier. Cette enquête nouvelle a été ouverte pour atteinte à l'intimité de la vie privée et enregistrement illicite, mais le site d'information a refusé la perquisition de ces locaux et s'est empressé de dénoncer une volonté d'atteinte au secret des sources. Car pour les journalistes de Mediapart, c'est évident, Rosalie Lafarge, on cherche là à identifier ceux qui leur livrent des informations.
Il débarque à 5 hier en fin de matinée. 2 procureurs, 3 policiers venus pour cette perquisition, ou plutôt pour cette tentative d'intimidation pour le patron du site Edoui Plenel.
L'actuel procureur de la République est le procureur de Paris choisi par M. Macron lui-même. Dans une affaire qui concerne au plus haut point la présidence de la République, alors que nous révélons des faits d'intérêt public, le parquet de Paris, le nouveau procureur de la République, n'a d'autre urgence que de faire cet acte violent, rarissime, de venir perquisitionner un journal.
Il y a pourtant bien d'autres façons d'agir dans le cadre d'une enquête préliminaire, souligne l'avocat de Mediapart, maître Emmanuel Torjman.
On envoie une réquisition, on passe un coup de téléphone, on contacte et on dit voilà, dans le cadre d'une enquête, j'ai été saisi par un tel, pourriez-vous me communiquer les éléments qui sont accessibles ? Mais là, c'est pas ce qu'on fait. Comment imaginer que le procureur de la République peut envisager de perquisitionner des locaux d'un organe de presse sans un accord d'un juge des libertés de la détention ? Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tenté.
Et pourquoi il a tenté ? Comme le dit l'avocat Fabrice Arfi, co-responsable du pôle enquête de Mediapart, n'a aucun doute.
En réalité, on voit bien que ce sont des manœuvres, un habillage qui n'a qu'une seule fin : trouver les sources de Mediapart. Pour les tarir.
Mais la rédaction reste confiante en elle-même et en ses sources, insiste l'un de ses journalistes, Anton Rouget.
Je crois que depuis le début de cette affaire, on n'a pas fini d'être stupéfait par la manière dont elle est gérée à la fois au niveau de la présidence de la République et par la justice. Évidemment, on va continuer. Évidemment, l'action d'Alexandre Benalla ne va pas dissuader nos sources de continuer à nous aider. Et puis, on ira jusqu'au bout, coûte que coûte.
Avec cette conviction renforcée qu'il y a encore bien des choses à révéler dans cette affaire Benalla.
Direction le Venezuela à présent, où l'opposant Juan Guaido a été reconnu hier comme président par intérim par 19 pays de l'Union européenne, dont la France. Des pays aussitôt accusés par le président socialiste Nicolas Maduro de soutenir les plans putschistes des États-Unis. Tandis que les soutiens diplomatiques se multiplient, Juan Guaido tente d'organiser l'arrivée d'une aide humanitaire au Venezuela, pays où la population subit d'importantes pénuries de nourriture et de médicaments. Et parmi les questions en suspens dans le pays, comment se comportera l'armée le jour où cette aide humanitaire pourra être acheminée vers les frontières vénézuéliennes ? Nicolas Maduro bénéficie toujours du soutien officiel de l'armée, mais cette unité existe-t-elle réellement ? Pour le savoir, notre envoyé spécial Olivier Poujade a rencontré d'anciens hauts gradés des forces armées vénézuéliennes.
Entre 150 et 300 membres du commandement seraient aujourd'hui détenus dans les deux principales prisons de Caracas. Humberto Mayo, professeur à l'Académie militaire vénézuélienne, affirme que si l'armée régulière est encore derrière Nicolas Maduro, c'est qu'elle est soumise au système de terreur mis en place par le leader vénézuélien et ses alliés.
L'armée est séquestrée
sous le contrôle des commissaires politiques cubains. À l'intérieur, les unités sont harcelées, espionnées. Donc les soldats sont prudents. C'est la seule raison, la peur et l'intimidation, à travers la corruption, la torture, la terreur. Une armée régulière terrorisée et des groupes de narco-militaires et paramilitaires au service du gouvernement. Toute une constellation de bandes armées, Colectivos, policiers du SEBIN, service de contre-espionnage et les PRANES. Ce sont des chefs de gang emprisonnés qu'ils ont fait sortir, ils leur ont mis un uniforme et les ont incorporés à la police et à la garde nationale. Des jeunes délinquants. C'est cette garde rapprochée que Nicolas Maduro compte emmener jusqu'au bout de son fanatisme.
Olivier Poujade à Caracas pour France Culture. Comme Berlin, Barcelone ou New York, la mairie de Paris tente de sévir contre les locations touristiques d'Airbnb, accusées de faire monter les prix des logements. La ville attaque en justice le géant en ligne, Catherine Pétillon.
Ce que la ville reproche à la plateforme d'hébergement, c'est de ne pas retirer de son site les annonces qui n'ont pas de numéro d'enregistrement, comme le leur impose pourtant la loi. Depuis décembre 2017, tout loueur de meublés touristiques doit en effet être enregistré et son numéro doit figurer sur l'annonce en ligne. L'objectif est de vérifier que les propriétaires ne dépassent pas la durée limite légale de location, 120 jours par an quand il s'agit de sa résidence principale. Selon la mairie de Paris, les trois quarts des annonces ne respecteraient pas ces règles. Elles ne seraient que 20% selon Airbnb. La ville, par la voix de son élu au logement, Yann Brossa, veut accélérer sa bataille contre la plateforme et ses effets sur la montée des prix des logements. De son côté, Airbnb avait, lors d'une première audience en octobre dernier, déposé deux questions prioritaires de constitutionnalité des QPC, car elle estimait l'obligation de faire retirer les annonces concernées contraire à l'égalité devant les charges publiques. La Cour de cassation a depuis tranché et estimé dans des arrêts du 31 janvier qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer ces QPC devant le Conseil constitutionnel. Airbnb devra donc déployer d'autres arguments devant le TGI ce matin. Elle continue de juger la mesure inefficace et inadaptée aux particuliers, mais c'est désormais la loi. Ce que la plateforme conteste toujours, c'est de devoir être celui qui doit la faire appliquer auprès de ses utilisateurs. Pour convaincre le tribunal, elle devrait défendre l'idée que surveiller ses utilisateurs serait contraire à la régulation européenne des plateformes. La mairie de Paris, elle, estime qu'en refusant de faire elle-même le ménage dans ses annonces, Airbnb se défausse et cherche à renvoyer la responsabilité au seul loueur.
Le temps de ce mardi 5 février, gris et humide sur le sud-ouest, plus calme et plus doux dans le reste de l'Hexagone. Au meilleur de la journée, il fera entre 4 et 7 degrés du nord-est jusqu'au centre, 7 à 15 partout ailleurs.